Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres des mesures choc pour la simplification proposée par des députés. Le plaidoyer du patron de Google Monde pour l'intelligence artificielle. Et puis une usine pour recycler du textile prône un changement de société. Simplification, c'est un terme à la mode qui met à la fois les entreprises, les agriculteurs et le gouvernement d'accord. Le constat, c'est qu'il y a en France un excès de normes qui tue la croissance. C'est l'expression hier utilisée par Bruno Le Maire lors de la présentation d'un rapport parlementaire. 30 pages, 14 propositions avant un projet de loi fin mars, Zoé Pallier.
On a fait des propositions non consensuelles, reconnaît volontiers le député Louis Marguerite, co-auteur du rapport. L'une d'elles, chère à Bruno Le Maire, consiste à relever les seuils à partir desquels les contraintes s'appliquent. Par exemple, aujourd'hui, une entreprise de plus de 50 salariés doit disposer d'un règlement intérieur et consulter régulièrement ses représentants du personnel. Les parlementaires veulent réserver ces obligations aux grandes entreprises de plus de 250 salariés. Les jeunes PME devraient aussi pouvoir déroger pendant 5 ans aux accords de branche sur les salaires ou le temps de travail. C'est catastrophique, s'émeut une secrétaire nationale de Force ouvrière. Les syndicats ont découvert ce rapport hier après la presse. Pour l'instant, on a surtout consulté les organisations patronales, concède un des parlementaires. Le texte reprend d'ailleurs leur principale revendication qui consiste à tester la faisabilité d'une norme pour une petite entreprise avant de la généraliser.
Et simplifier les normes, c'est parfois les unifier à l'image des règles sur les traitements de données. Le RGPD, c'est le règlement européen salué par Sundar Pichai, le patron d'Alphabet, la maison mère de Google. Sundar Pichai qui était hier à Paris pour inaugurer un centre dédié à l'intelligence artificielle. Éric Mauban.
Oui, près de 300 chercheurs et ingénieurs seront prochainement réunis dans des bureaux du 9e arrondissement dans la capitale. Les équipes travailleront avec les universités et les instituts de recherche français afin de développer la recherche sur l'intelligence artificielle. Sundar Pichai, le PDG de Google, accorde ce matin dans les Échos une longue interview dans laquelle il souligne à quel point l'intelligence artificielle va accélérer le progrès scientifique, notamment dans le domaine de la santé. Elle pourra également faciliter l'éducation et la formation en permettant l'extraction d'informations d'une masse de données. Le patron de Google insiste beaucoup sur la nécessité de renforcer les partenariats et encourage l'Europe à trouver le bon équilibre entre les risques et les opportunités que peut offrir l'intelligence artificielle.
Éric Mauban est sur l'intelligence artificielle. L'un des concurrents de Google, OpenAI, se lance dans la vidéo. Déjà créateur de ChatGPT, le nouvel outil va s'appeler Sora, capable de générer des vidéos à partir d'une requête écrite. L'entreprise américaine n'a en revanche pas encore donné de date de disponibilité. La conférence de Munich s'ouvre aujourd'hui, conférence sur la sécurité avec des industriels et des chefs d'État, et notamment Volodymyr Zelensky qui est de passage à Paris et Berlin aujourd'hui pour signer des accords de sécurité. Une conférence de Munich qui s'ouvre donc dans un monde où l'on vend plus d'armes, 2200 milliards de dollars de dépenses l'an dernier, dont la moitié pour les pays de l'OTAN, avec évidemment beaucoup de pays européens. Julien Mazard est le titulaire adjoint de la chaire économie de défense à l'Institut des hautes études de la défense nationale.
La guerre en Europe, elle a contribué à accélérer une tendance qu'on voyait en Europe depuis 2014. Donc avec l'annexion de la Crimée, les pays européens ont augmenté fortement leur budget de défense. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a une augmentation qui est encore plus soutenue depuis 2022, depuis le début de la guerre en Ukraine, où en fait on a des pays, en particulier les pays d'Europe de l'Est, qui ont des budgets qui ont très fortement augmenté, et en particulier des budgets en faveur de l'acquisition de matériel. Donc là, on a une dynamique extrêmement soutenue qui conduit les Européens à acheter pour renouveler soit les stocks qu'ils ont livrés à l'Ukraine, soit au contraire même développer de nouvelles capacités. Et ça se voit sur les commandes qu'ils adressent à l'industrie de défense.
Julien Malizard de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Les marchés financiers à New York, le S&P 500 bat son record à 5029 points. Le Dow Jones finit également en hausse, plus 0,91%. Le Nasdaq, même chose, plus 0,3%. Le CAC, qui porté par les résultats publiés toute la semaine, était en hausse hier en clôture à plus 0,86%. Et puis ce matin, même chose au Japon, le Nikkei est à plus 1,05%. Il est 6h54, c'est une montagne de déchets que l'on crée tous les ans. Les textiles, ces habits de mauvaise qualité achetés pour pas très cher, ce sont les dérives de la fast fashion. Une entreprise a mis au point une technologie pour recycler les plastiques et les textiles. Bruno Le Maire se rend d'ailleurs sur le site de l'usine à Clermont-Ferrand. L'entreprise c'est Carbios. Bonjour Emmanuel Ladan.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Carbios. Alors en quoi consiste cette technologie mise au point ?
Alors Carbios, à partir d'enzymes, recycle de manière complètement biologique des déchets en PET, donc des déchets plastiques en PET, et des déchets textiles en polyester. Donc on fait tout ça de manière biologique. Donc à partir de déchets, on revient aux composants de base du plastique ou du textile pour refaire un plastique de qualité neuve.
Est-ce que vous pensez que cette bonne pratique va se généraliser partout en France ?
Alors, en fait, chaque habitant en Europe jette environ 70 kilos chaque année de déchets plastiques et 12 kilos de déchets textiles. Et c'est très peu recyclé. Le plastique est recyclé à hauteur de 9% et le textile est recyclé à moins de 1%. Donc, oui, ça va généraliser parce qu'on ne peut pas, même si on fait un effort de réduction ou un effort de réemploi de nos vêtements, on ne peut pas arriver à changer la circularité du textile et du plastique sans déployer des technologies comme celle de Carbios.
Quel est le message que vous allez adresser à Bruno Le Maire tout à l'heure ?
Eh bien, qu'il faut soutenir des entreprises comme Carbios, que fait le gouvernement français grâce au plan France 2030. On montre qu'à partir de recherches nées en France et avec l'aide de la France, on va pouvoir continuer à se développer. On monte notre première usine en France, en Meurthe-et-Moselle. Et Carbios est l'exemple vivant de notre capacité non seulement à innover, mais aussi à réindustrialiser en France. Et je voulais le remercier pour son soutien, puis de l'inviter à continuer à soutenir une initiative comme Carbios, qui est au cœur d'un enjeu planétaire où la France peut vraiment prendre de l'avance, c'est rendre le textile circulaire et recréer des emplois grâce à un textile circulaire.
Est-ce que le gouvernement peut en faire peut-être davantage ? Dites-nous, de quoi avez-vous besoin ?
Alors, ils nous ont déjà beaucoup aidé pour Carbios, mais il y a aussi à structurer toute la collecte, parce que malheureusement, nos déchets textiles en Europe et dans les pays occidentaux, j'allais dire, la majorité de nos déchets textiles terminent dans des décharges, et souvent dans des décharges sauvages dans des pays du Sud. Donc, il est important de continuer à soutenir la filière textile pour qu'elle déploie des solutions comme Carbios, pour qu'on évite ce scandale écologique et d'exporter nos vieux déchets vers les pays en voie de développement.
Emmanuel Ladan, le directeur de Carbios, merci d'avoir été l'invité du journal de l'économie de Radio Classique. C'est un enjeu énorme pour Ubisoft, la sortie aujourd'hui de son nouveau jeu Skull and Bones, l'un des jeux les plus attendus de l'année pour un éditeur qui est en difficulté depuis 3 ans, un jeu qui a mis plus de 10 ans à être développé, illustration d'un modèle économique qui interroge Eric Kioch.
Allez-vous vivre comme un pion ou mourir comme un pirate ?
Voguer et piller sur les 7 mers, cela a un prix. 80€ en version standard, 100 en premium et pour le pistolet de vos rêves, il faudra laisser quelques louis d'or en plus durant votre temps de jeu. Un modèle de commercialisation choisi par Ubisoft en quête de rentabilité avance Charles Planade, expert jeux vidéo au cabinet Midcap.
L'idée c'est de faire un prix d'appel, même si le prix d'appel reste élevé, hein, et puis ensuite monétiser avec les joueurs qui ont la volonté de s'engager davantage dans le jeu.
Car la production de Skull and Bones a coûté 110 millions d'euros, mais Ubisoft cherche aussi à fidéliser, analyse Julien Villedieu, spécialiste jeux vidéo chez Leveling Partners.
L'objectif des éditeurs, c'est aussi de proposer une expérience qui va s'inscrire dans la durée, de façon à ce que la communauté des joueurs soit de plus en plus importante. C'est la raison pour laquelle il y a des contenus téléchargeables supplémentaires.
Un modèle qui a fait la réussite d'autres jeux comme Call of Duty ou encore FC, anciennement FIFA, des licences qui comptent des millions de fans, mais les joueurs accepteront-ils de dépenser autant pour un jeu encore inconnu ?
Si le jeu a un énorme succès et que les attentes des joueurs sont comblé par l'expérience proposée, le prix ne sera plus un sujet.
Un pari pour Ubisoft ces derniers jours, de nombreux joueurs ayant pu tester Skull and Bones dénoncent un prix exorbitant pour le contenu proposé.
Et Eric Kioch, et pour les fans de manga, je vous renvoie à l'interview de Romain Régnier, le fondateur de manga.io. Il était ce matin dans la France de demain, c'est à retrouver en replay sur l'application Radio Classique. La météo...